RMC, Intégral Foot Ligue 1, Nicolas Villas.
Hola viva, soyez les bienvenus, bienvenue sur RMC dans l'Intégral Foot à 21h, coup d'envoi de Paris Saint-Germain-Toulouse, et toutes nos équipes sont mobilisées bien entendu pour cette affiche de Ligue 1, cette affiche de la troisième journée, la première de Neymar au Parc des Princes. On aura les compositions d'équipe dans quelques instants avec Jeannot Rességuet qui est sur place avec Morgan Mori. Jeannot qui est d'ores et déjà avec nous. Salut Jeannot.
Bonsoir tout le monde.
Ça va Jeannot?
Très bien.
Alors t'as pas encore les compos?
Si.
Attends. Bouge pas. On appelle ça du teasing dans le jargon, tu le sais.
Oui.
D'abord on accueille Lionel Charbonnier. Salut Lionel.
Salut Nico, salut Jeannot. Bonsoir à toutes et à tous.
Comment
salut,
va Lionel?
Bah ça va, nickel.
T'es chaud pour cette affiche ou quoi?
Ah, un petit peu mon neveu.
Alors Jeannot, tu as donc les compositions d'équipe de ce Paris Saint-Germain Toulouse. Mais avant, accueillons Arnaud Valadon qui est aux abords du Parc des Princes. Salut Arnaud.
Salut messieurs.
Alors quelle est l'ambiance aux abords de l'enceinte du Paris Saint-Germain, Arnaud?
Eh bien il y a une effervescence, de la joie. On a hâte de voir Neymar et on vient de partout. Partout en France, partout dans le monde, puisque je suis en compagnie de personnes venues spécialement de Shanghai pour voir Neymar. Kyo est là, il est d'Alfortville, ce sont des amis qui l'accueillent et qui vont voir Neymar. Kyo, c'est incroyable Neymar, et ça parle au public chinois surtout. Vous m'avez dit un peu Ibrahimovic, mais Neymar, ça parle vraiment.
Bah oui, bah il est vraiment très 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 connu comme le footballeur célèbre dans le monde entier, voilà, le Brésilien. Il est très fort.
Alors l'histoire de votre amie, c'est que elle avait le maillot Neymar à Barcelone, elle le suivait, et maintenant elle a le maillot Neymar Paris Saint-Germain.
Oui, tout à fait.
Et alors je crois qu'ils ont un petit mot pour nous. Ils parlent pas français, c'est pour ça qu'on ne va pas leur donner la parole, mais ils ont une petite phrase pour nous.
Oui. Allez Neymar.
Donc voilà Neymar qui permet de faire connaître le Paris Saint-Germain au monde entier, et donc y compris au public chinois. Voilà, avec ce couple venu de Shanghai.
Merci Arnaud, décidément ce Neymar, eh bien, il excite absolument tout le monde et aux quatre coins du globe. Le Parc des Princes attend ce soir la première de Neymar, le Brésilien qui avait brillé la semaine dernière à Guingamp. Voici une super production signée Paul Spielberg, Vexio.
Ici, c'est...
Neymar dans la seconde impression, Neymar passe bas de jambe, Neymar qui crochette, Neymar qui est passé face à Didon.
Neymar, c'est plus de qualité, plus de capacité individuelle et collective avec la combinaison individuelle avec les 1 contre 1 à notre attaque.
Neymar avec Cavani, Cavani qui accélère, Cavani, la frappe du droit, et le but, le deuxième but du Paris Saint-Germain sur la passe décisive de Neymar.
Je n'ai jamais dit que nous allions disputer un match de Ligue 1. Neymar, TFC.
Oh Neymar.
Un don du ciel de pouvoir compter sur un tel joueur dans notre championnat, parce que ça relève son intérêt.
Cavani, Neymar! Et le but!
On y va ou pas à Paris? On joue ou pas à ce match? On y va pour apprendre, on y va pour défendre nos couleurs. Voilà.
Paris est magique.
Elle est merveilleuse cette production, ça donne envie de danser. La semaine dernière on se demandait ce que vous préfériez entre la musique bretonne et la musique brésilienne. Jeannot avait fait son choix bien entendu. Jeannot qui est au Parc des Princes, Jeannot qui a les compositions d'équipe. On t'écoute Jeannot.
Un changement côté Paris Saint-Germain, c'est en défense. Marquinhos sera sur le banc. Kimpembe en charnière centrale associé au capitaine Thiago Silva, ce qui va nous donner donc Areola dans les buts. Kurzawa à gauche, Kimpembe, Thiago Silva, Dani Alves pour la défense, Thiago Motta, Rabiot, Verratti, toujours ces trois milieux récupérateurs relayeurs, et puis le secteur offensif avec Neymar à gauche, Di Maria à droite et Cavani dans l'axe de l'attaque du Paris Saint-Germain. Pour le Toulouse Football Club, un petit coup dur pour Duprat hier soir à l'issue de la dernière séance d'entraînement. Sanogo, dont il voulait faire un titulaire, ce soir s'est blessé à la cuisse, du coup il n'a pas fait le déplacement. On a appris ça dans l'après-midi. Quentin Boigard, un jeune contrat, premier contrat de Toulouse, a fait le 19e. Il ne sera pas sur la feuille de match. Mais en revanche, on aura droit à la première de Gradel, l'ancien Stéphanois. Lafond dans les buts. Amiens, Diop, Julien, Moubangé pour la défense. Somalia et Blin pour le milieu récupérateur relayeur sur les côtés d'Urmaz et Gradel. Et ce sera donc Toivonen qui sera aux côtés de Delors pour ce qui est du duo d'attaquants du Toulouse Football Club. C'est Amaury Delerue qui sera l'arbitre de cette rencontre. Il était déjà l'arbitre la saison dernière du fameux 0-0 de Toulouse ici au Parc face à Paris.
Merci Jeannot. Lionel.
Oui.
ta première impression sur ces compositions d'équipe. Alors, on l'a vu, hein, Marquinhos est sur le banc.
Ouais, ouais. Un petit coup dur tout de suite. Bon, Jeannot l'a expliqué, on va pas revenir dessus pour les Toulousains. Maintenant, Marquinhos sur le banc. Bon, on fait tourner, je pense pas qu'il y ait une valeur tactique ou quoi. On va mettre un peu Kimpembe, lui mettre un peu de minutes dans les jambes. Et puis non, on change pas au niveau du milieu de terrain. Il s'agit maintenant de créer des automatismes, donc il faut rien changer. Moi, je suis d'accord avec cette compo.
Mais pour toi, c'est de la gestion, le fait que Marquinhos soit sur le banc et Kimpembe soit titulaire.
Oui. Il faut que Kimpembe prenne des minutes dans les pattes et voilà. Et je pense que ça va être le cas pour un petit peu tout le monde au fil des matchs.
On va revenir dans quelques instants sur cette composition d'équipe et même d'ailleurs plus précisément sur le système de jeu visiblement adopté par Unai Emery ce soir encore une fois. Ce serait visiblement une nouvelle fois en 4-3-3. Vous nous appelez au 32-16 si vous en avez marre de ce 4-3-3 ou au contraire si vous l'aimez. Mais d'abord, retournons du côté du Parc des Princes. Morgan Mori est au bord de la pelouse du parc. Salut Morgan.
Salut Nicolas, salut Lionel, bonsoir.
Salut Morgan.
Alors comment se porte le gazon, Morgan?
Écoute, je suis au ras du gazon, c'est microcosmos à ce niveau-là. On sait qu'il y a 15 jours contre Amiens, il y avait un champignon qui faisait très mal. Aïe. À la pelouse du Parc des Princes. Jeannot peut vous en parler, les super au fait de cette histoire de pelouse du Paris Saint-Germain.
Ça a l'air mieux, toujours là. Hein.
Ça a l'air mieux, mais pas grand-chose, hein, parce qu'on voit encore ces traces un peu marron à quelques mètres de moi. La pelouse a été abondamment arrosée il y a quelques dizaines de minutes. Est-ce que ça va progresser, ça va être un peu mieux sur cette qualité de pelouse du Paris Saint-Germain? Hier, j'étais à Saint-Etienne, la pelouse était dans un état catastrophique du côté de ces clubs. On a des difficultés avec le gazon en cette fin d'été, Nicolas et Lionel.
Ouais, c'est vrai que c'est un vrai problème, hein, Jeannot, hein, ces questions de gazon. Hein.
Oui, alors surtout que tu sais que la Ligue de football professionnel avec le conseil d'administration a adopté le fait que trois mauvaises notes consécutives, ce sera une amende qu'ils ont demandé à ce qu'on protège les surfaces de réparation pendant les échauffements et également le décrassage. Du coup, on a mis des buts amovibles sur toutes les pelouses de Ligue 1, mais il y a effectivement ce fameux champignon qui, même la pelouse du Parc des Princes, hein, bichonnée par Jonathan Calderwood, a même souffert. On l'a vu effectivement contre Amiens. C'est un petit peu mieux pour le match de ce soir contre Toulouse, mais c'est pas encore ça. Et c'est vrai qu'il va falloir, et on est qu'au mois d'août, il va falloir effectivement se pencher sur ce dossier-là des pelouses, au-delà du fait qu'il y a ce nouveau règlement. Les sifflets que vous entendez, c'est pour Alban Lafont qui arrive à l'échauffement, le gardien du TFC, et espérer que si l'on veut que le spectacle perdure, puisque là on a quand même beaucoup de buts depuis le début de la saison et on va pas s'en plaindre, si le spectacle doit perdurer cette saison, il faudra bien évidemment des pelouses de meilleure qualité.
Jeannot, ouais. D'autant plus Jeannot que le match est retransmis sur combien de continents, enfin sur tous les continents, combien de pays différents, et le fait d'avoir de montrer des pelouses en mauvais état, c'est pas une très belle image pour notre football français.
Oui, c'est pas faux. Alors je sais pas si on aura autant de pays concernés par la diffusion que lors du premier match de Neymar du côté de Guingamp, mais oui, il y a une diffusion internationale et notamment du côté du Brésil. C'est pas une bonne publicité, mais au-delà de ça, c'est pas bon pour la qualité du spectacle. Toi qui as été joueur,
voilà,
pour
ça,
un
la
joueur,
la qualité,
on préfère un billard. Hein.
Si la qualité est moins bonne, ça sera, et qu'il y ait une diffusion énorme, ça c'est pas bon pour nous. Voilà.
Morgan Mori.
183 pays diffuseurs du match contre Guingamp, voilà, la semaine passée.
Un petit peu, ouais.
Et une impression dans le stade, Nicolas, ce n'est qu'une impression, pas de statistiques, mais l'impression que le public du Parc des Princes est en train de s'internationaliser énormément. Donc ça va être un passage obligé pour les touristes à Paris, le petit billet au Parc des Princes pour apercevoir la pépite Neymar.
Et puis c'est les vacances aussi, hein, on le rappelle, hein, il y a forcément un peu moins de monde. Morgan, tu sais que c'est l'anniversaire de Bernard Mendy aujourd'hui.
Je ne le savais pas.
Je te le dis. Alors, c'est l'anniversaire de Patrick Drahi aujourd'hui. Il vient de m'envoyer un texto. Alors, il a une mission.
Aussi.
Alors, on l'embrasse également, Edouard, bien entendu. Il aimerait avoir un coucou de Neymar pendant l'échauffement. Donc voilà, il aimerait bien avoir un petit mot, un joyeux anniversaire. Ce sera ta mission, toi qui es au bord.
C'est prévu en français également et une chanson parce qu'apparemment, il adore Dalida et un petit Dalida. Mourir sur scène. Il aurait.
Ouais. Merci, Morgan. Tiens, premier talk, premier débat de cette soirée. Est-ce qu'Emery est trop frileux? Alors, c'est vrai que vu la composition, les joueurs qu'il a alignés ce soir, s'achemine vers un 4-3-3, visiblement, c'est ça, hein, Jeannot, hein.
Ah oui, complètement. Ouais. Ouais.
T'en penses quoi de ça, justement?
Moi, je trouve que c'est assez étonnant. Voilà. Alors, on avait déjà parlé de ça lors du premier match contre Amiens. Avait-on besoin, et sans dénigrer la qualité de cette équipe d'Amiens, de voir trois milieux récupérateurs relayeurs, l'arrivée de Neymar à Guingamp, on aurait pu penser que Unai Emery reviendrait à ce 4-2-3-1 qu'il a utilisé à Séville et quasiment jamais, ou en cours de match ici depuis qu'il est entraîneur à Paris. Je trouve que ça fait un peu trop, voilà. Mais ça, c'est un avis uniquement personnel.
Ouais, Jeannot, regarde, que ce soit Rabiot ou Verratti, sont quand même des joueurs qui sont capables de se projeter et de créer le surnombre quand même sur le plan offensif. Et ce sont quand, en plus, de formidables récupérateurs. Donc,
Thiago Motta est de trop. On est d'accord.
Non, je pense pas. Non, parce qu'il faut qu'il soit là devant pour l'équilibre.
Je suis pas convaincu là-dessus. Bon, après, ouais. Ce n'est qu'un avis personnel. Hein. Voilà, je suis pas.
Il y a pas mal de supporters qui partagent cet avis, en tout cas.
Je pense que ça va changer, Jeannot. Hein. Tu sais, avec l'arrivée d'un petit de Monaco, là, peut-être. Déjà, on va changer le.
Si tu parles de Fabinho, déjà, il est pas encore là, hein, parce que ça a l'air d'être assez compliqué.
Non, moi, je parlais d'Mbappé.
Ah, tu parlais d'Mbappé, parce que Fabinho, s'il arrive aussi, ça va réorganiser le milieu de terrain. Après, si Mbappé arrive, oui, effectivement, là, ça va tout réorganiser, quoi.
Voilà, mais bon. C'est ça.
En tout cas, ça fait réagir sur le hashtag RMC Live. Jules qui nous dit, mais ça suffit, le 4-3-3, le Paris Saint-Germain doit changer. Soyons audacieux, nous dit-il. Thomas nous a appelé au 32-16, supporter du Paris Saint-Germain. Salut Thomas.
Salut Nico, salut
Thomas. Alors Thomas, qu'est-ce qui t'inspire, toi, justement, ce système adopté par Unai Emery?
Il m'inspire rien du tout, j'en ai marre. Ben oui, Lionel, tu rigoles, mais Emery, on l'a pas recruté pour faire le schéma tactique de Laurent Blanc. Et on n'a pas vendu Matuidi pour jouer en 4-3-3, et on n'a pas assez Draxler pour jouer en 4-3-3, on n'a pas assez Neymar pour jouer en 4-3-3.
Ouais, mais l'articulation n'est pas la même qu'avec Laurent Blanc.
Le plan de jeu n'est pas le même. Mais ouais. À la limite, je vais dire, Lionel, on serait à l'extérieur en Ligue des Champions, au Real.
Ça va nous arriver.
Voilà, le 4-3-3, pour moi, il serait logique, parce que il faut des récupérateurs, il faut des relayeurs, il faut des gens qui puissent nettoyer au milieu de terrain, etc. Mais là, tu joues à domicile contre Toulouse. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder, entre guillemets, avec trois récupérateurs? Le ballon, on va l'avoir 80% du temps. C'est des milieux offensifs qu'il faut pour mettre la pression. C'est limite jouer avec deux attaquants, je sais pas. Mais il faut les bouger. Je veux dire, Motta, Verratti, depuis quand tu les as vus mettre une frappe de loin? Depuis quand tu les as vus dans la surface de réparation? Il te fait 4-5 montées par match. Donc c'est pas des mecs qui vont t'apporter au niveau de la pression offensive énormément.
Moi, je pense qu'avec un milieu comme ça, le PSG peut jouer en position haute et donc récupérer les ballons très tôt, organiser un pressing très tôt, mettre une pression tout en ayant un équilibre défensif. Et je pense que pour l'instant, prendre ces automatismes-là pour pouvoir jouer contre, tu viens de le dire, je suis d'accord avec toi, contre les grandes équipes à l'extérieur dans la Coupe d'Europe, pour pouvoir jouer comme ça. Ça va donner des automatismes, parce que le jour où il faudra le mettre, il va falloir quand même qu'on ait des automatismes. Je me souviens de Laurent Blanc qui avait sorti un espèce
oui,
de
Manchester, c'était n'importe quoi.
Ouais, voilà, mais sans voilà. Qu'il n'avait jamais été expérimenté. Là, c'est un schéma de jeu. Effectivement, c'est vrai que beaucoup, je comprends ceux qui en ont marre, mais il faut quand même qu'il y ait des bases et que les joueurs qui soient à l'intérieur aient vraiment ces bases et ces automatismes.
Je suis d'accord, Lionel. Juste quelque chose après. Je pourrais dire après le match à Unai Emery si ça marche très bien ce schéma, si par exemple, comme tu le dis, récupération haute. Pression, pressing haut,
oui.
Et Alves et Kurzawa qui montent très haut,
bien sûr.
Qui pourraient permettre aussi à Di Maria et Neymar de replonger dans l'axe.
Exactement.
5 joueurs en attaque. À ce
exactement.
Moment-là,
oui. Moi je le vois comme ça.
Alors à ce moment-là, ils font un gros travail de Kurzawa et Aurier.
Merci.
Et Alves? Alves, parce qu'Aurier, il est sur le départ.
Excuse-moi, Jeannot.
C'est exactement comme ça que je le vois. Après, est-ce que cette articulation va être demandée? Je sais pas. Mais quitte à mettre une équipe comme celle-là et un 4-3-3, moi, au PSG, voilà, j'attends ça aujourd'hui. Est-ce qu'on va l'avoir? Okay. Je sais pas.
Eh ben écoute, on verra après le match.
Ouais.
Merci en tout cas Thomas de nous avoir appelé au 32-16. Bon match à toi. Salut Thomas, salut.
Ciao.
Salut.
On va poursuivre tiens, ce débat autour de ce système de jeu d'Unai Emery. Alors ça fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, sur l'hashtag RMC Live. Ça
je
vous fait
pas faire des amis.
Il y a pas. Ah bah non, mais écoute. Alors c'est vrai. Alors on va être honnête avec toi. La plupart des appels et des réactions qu'on a, c'est plutôt pour critiquer le système mis en place par Unai Emery plutôt que pour le défendre.
Bien sûr.
Tu parlais de gestion tout à l'heure par rapport à Marquinhos. On peut se la poser aussi par rapport à Thiago Motta par exemple. Est-ce qu'il ferait pas mieux de le laisser un peu sur le banc? Il est plutôt jeune et d'avoir un système de jeu peut-être différent et plus audacieux, non?
Tu peux avoir le même système aussi, Nicolas, mais avec la pointe haute plutôt que la pointe basse, avec un Pastore par exemple.
Exactement. Bah, tu sais quoi? On va poursuivre justement ce débat dans quelques instants. 21h, coup d'envoi du match entre le Paris Saint-Germain et le Toulouse Football Club. Neymar est bel et bien titulaire pour sa première au Parc des Princes. A tout de suite.
RMC, Intégral Foot Ligue 1, Nicolas Villas.
Dans quelques instants, dans quelques minutes, le coup d'envoi du match de l'affiche de la troisième journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Toulouse. Et Neymar est titulaire du côté des Parisiens, lui qui va disputer son premier match du coup au Parc des Princes. Avant d'aller retrouver Jeannot Rességuier et Lionel Charbonnier ainsi que Morgan Mori pour ce PSG Toulouse, tout d'abord, allons voir Lucas Vinoy, alors qui va suivre toutes les grosses affiches également ailleurs en Europe. Salut Lucas.
Salut Nico.
Alors il y a notamment un Barça-Bétis ce soir. Hein.
Exactement, un Barça-Bétis qui a des allures dommages bien évidemment après les attentats à Barcelone. D'ailleurs les Blaugrana ont revêtu un maillot floqué à Barcelona. Tous les joueurs donc n'ont pas leur nom dans le dos. Donc le Barça, pour revenir sur le plan sportif, tentera de laver l'affront après les deux défaites contre le Real en Supercoupe d'Espagne. Et le mieux ce serait de commencer par une victoire pour cette première journée de Liga.
Il ressemble à quoi le 11 du Barça ce soir?
C'est Ter Stegen dans les buts, de gauche à droite Alba, Umtiti, Mascherano, Semedo, au milieu Rakitic, Busquets et Roberto, et en attaque De Lofeu, Paco Alcácer et Messi. À noter donc la titularisation d'Umtiti. Lucas Digne est sur le banc et les joueurs absents Iniesta, Suarez et Vermeulen quand même.
À 22h15 il y aura également un Deport Real en Espagne. Ça joue en Serie A aussi en Italie. Ils en sont où nos Français là-bas?
Et bah les Français, ils sont titulaires pour le match entre l'Inter Milan et la Fiorentina. Les anciens de Ligue 1, Essery et Veretout, seront là. Après, on suivra aussi Crotone, Milan AC, Bologne, Torino et Lazio Rome contre le promu Spal.
Merci Lucas, t'hésites pas à intervenir dès qu'il se passe quelque chose ailleurs. On retourne du côté du Parc des Princes avec Jeannot Rességuier. Jeannot, peux-tu nous rappeler s'il te plaît les compositions d'équipe de ce Paris Saint-Germain-Toulouse?
Areola dans les buts pour le PSG, Kurzawa, Thiago Silva, Kimpembe préféré à Marquinhos pour la charnière centrale, Dani Alves, les trois du milieu, Thiago Motta, Rabiot, Verratti, les trois offensifs, Neymar, Cavani et Di Maria. Sur le banc, Trapp, Marquinhos, Meunier, Yuri, Lo Celso, Javier Pastore et Draxler. Pour le Toulouse Football Club, pas de Sanogo, on le rappelle, blessé à l'entraînement hier soir. Il n'a pas fait finalement le déplacement, mais première pour Gradel, la dernière recrue offensive du TFC. La fond dans les buts, Amiens sur le côté droit, Diop, Julien pour la charnière centrale. Diop, c'est le retour à la compétition. Moubanje sur le côté gauche, Blin, Somalia en récupérateur relayeur, Durmaz et Gradel sur les côtés, Toivonen et Delors pour les deux attaquants toulousains. Sur le banc, Goygoetchea, Silla, Michelin, Cahuzac, Machache, Bodiger et Corentin Jean.
Et alors, on était en plein débat tout à l'heure parce qu'Unai Emery eh bien, reste fidèle à son fameux 4-3-3 et vous êtes pas mal supporters du Paris Saint-Germain, que ça énerve. Damien nous a appelé au 32-16, supporter du PSG. Salut Damien.
Bonsoir Nicolas, bonsoir Jeannot.
Salut bonsoir, Damien.
Bonsoir.
À Lionel. Oui, moi ça m'énerve, ouais, ça m'énerve complètement. depuis longtemps, ce 4-3-3 m'énerve et encore plus maintenant que Matuidi est parti. Parce que si un des trois du milieu venait à se blesser, on n'a personne derrière. On n'a plus personne derrière. Et moi, j'ai envie de voir avec Neymar Pastore. Mais vous imaginez une ligne d'attaque Neymar Pastore, Di Maria pour alimenter Cavani. Mais enfin, là, en plus, Dupraz, il annonce dans la presse qu'il va mettre le bus. Il a déjà fait l'année dernière. Deux fois, il nous a mis le bus. On a galéré contre Toulouse et deux fois. Pourquoi là, pas tester quelque chose de nouveau? Sincèrement, on risque rien. On a sûrement la meilleure défense de Ligue 1. On n'a rien à craindre de Toulouse. Enfin, on n'a rien à craindre de personne. Alors pourquoi pas tester au Parc?
Ouais, Lionel, qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est vrai que Pastore finalement ce serait pas mal de le voir dans ce milieu de terrain.
Bien sûr, ça serait pas mal pour alimenter Cavani, ça serait pas mal dans beaucoup de dans le jeu à terre, le petit jeu à terre et tout ça, les petits ballons pour glisser à Neymar aussi, il y a quelque chose qui peut se créer entre les deux, les trois, je dirais Neymar, Pastore, Cavani, mais par contre je pense que Pastore le petit souci qu'il y a ça serait défensivement, moi j'en fais pas un grand récupérateur, tu vois, pour faire un pressing haut.
Ouais, mais face à Toulouse, est-ce que c'est gênant vraiment?
Ah ben t'as besoin, moi je pense que face à Toulouse il faut les presser haut. Moi je reste sur ma position où j'attends un jeu de du PSG en position haute pour les presser vraiment et
mais
bloquer.
C'est pas Mota qui fait le pressing. Enfin, c'est pas Mota qui fait le pressing. Aujourd'hui, il fait plus de pressing, Mota.
Non, c'est pas Mota. C'est pas Mota, mais Mota te donne un équilibre défensif qui est hyper important parce que tu vas voir Toulouse, ils vont jouer quand même sur des contre-attaques et derrière, étant donné que Kurzawa et Alves vont monter eux aussi, il restera plus que Silva et Kimpembe. Si t'as pas Mota, tu peux te prendre un bouillon, un mec tout seul peut les prendre même dans le dos. Parce que Thiago Silva, moi, écoute, j'en fais pas un grand sprinter quand même.
Tiens, et t'évoquais également le nom d'un autre joueur, Damien, c'est Blaise Matuidi, alors qui vient de signer et d'être officialisé du côté de la Juve. Et d'ailleurs,
quelle recrue pour la Juve.
Alors, il y a un hommage qui lui sera rendu, c'est ça, Jeannot, hein, avant le match. Hein.
Oui, alors au départ, ça devait être une surprise, mais cela ne l'est plus, puisqu'il y a un film qui a été tourné par la cellule communication du PSG, interview de certains joueurs qui disent 2-3 mots sur Matuidi, et donc ça sera diffusé sur les écrans, mais c'est déjà sur les réseaux sociaux. Et Blaise Matuidi est présent et dira quelques mots au micro tout à l'heure avant le coup d'envoi.
Et alors, est-ce que tu penses, toi, Damien, que Matuidi manquera au Paris Saint-Germain? T'en penses quoi de son départ à lui?
Bah déjà, pour moi, le PSG peut à peu faire tous ses joueurs emblématiques, Sacco, maintenant Matuidi, et je trouve que c'était un peu des joueurs qui représentaient l'âme du club. Ce club a une histoire, il faut pas l'oublier, et on a besoin de ce genre de joueurs. Matuidi, c'est un des rares qui avait la grinta, qui se battait sur chaque ballon, qui lâchait rien, et qui avait un volume de jeu exceptionnel. Donc pour moi, oui, il manquera. Il manquera forcément. Et d'autant que on sait que Mota et Verratti se blessent assez régulièrement, et même Rabiot. Donc ouais, moi je pense que si Matuidi n'est pas remplacé, il va forcément manquer au PSG. C'est un joueur, pour moi, c'est un passe-temps au cœur de le voir partir, et je suis content de voir un bel hommage comme il a été fait à Sacco. Parce que ce sont des joueurs qui sont très très importants pour le Paris Saint-Germain.
Lionel, tu disais, je suis complètement d'accord avec Damien. Il a parfaitement raison. Je pense, il a employé le mot. C'était l'âme du PSG. Je dirais, c'était l'âme du milieu de terrain qui leur donnait cette grinta qui venait. Alors pour moi, il n'a pas toujours été employé comme il aurait dû être, parce qu'on lui demandait de se projeter énormément. On l'a même vu jouer carrément en position d'ailier pas mal de temps. C'est pas du tout un milieu comme ça. Blaise, tu le mets à la place. Tu peux même le mettre à la place juste devant la défense de Thiago Motta, et ça l'empêchera pas de se projeter tout pareil. C'était un mec hyper important. Moi je dis c'est une formidable recrue pour la Juve. Il est pour la Juve, et il est complètement dans l'âme de la Juve, et tu vas voir, il va être étincelant là-bas.
Moi j'ai une question à vous poser, un peu provocatrice. Je le fais.
J'espère qu'on les rencontrera pas et qu'il va pas nous mettre la misère.
Alors est-ce que c'est pas bon signe finalement que le Paris Saint-Germain se sépare de Blaise Matuidi? Parce que c'est vrai que c'était un taulier. Peut-être qu'aujourd'hui le PSG aspire à mieux. Lui aussi d'ailleurs, peut-être également. Une page se tourne, il vise peut-être d'autres joueurs également. Alors on sait que pour recruter d'autres joueurs, il faut aussi pouvoir vendre, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, les Parisiens aussi.
Ouais, enfin, je sais pas ce qu'en pense Jeannot, moi.
C'est le début du nouvel ère, quoi.
Non, mais ils sont obligés de toute façon de vendre des joueurs déjà, par rapport au fair play financier. Voilà. Après, c'est des choix à faire aussi par rapport aux hommes et au profil qu'ils représentent dans le système de jeu, qu'ils soient titulaires ou qu'ils soient doublure. Mais je suis un petit peu de l'avis de Nicolas. Ils sont en train de modifier justement certains joueurs recrutés. On sait que Di Maria, Messi fait le forcing pour qu'il aille du côté de Barcelone. Il y a trois clubs anglais intéressé par Draxler. Lucas, bon, il est blessé, mais on se pose la question de savoir s'il va rester, même s'il fait partie des proches de Neymar. Ils veulent Fabinho, ils veulent Mbappé. Déjà, ils ont du goût, ils vont chercher chez le champion en titre l'AS Monaco. Ils n'auront peut-être pas les deux, ils n'en auront qu'un sur les deux, mais ce qui est sûr, c'est que Matuidi va être remplacé. De quelle manière, par quel profil, par quel joueur, il va être remplacé. Ils sont obligés, au regard justement de la compétition qui va arriver avec le tirage jeudi soir, c'est-à-dire la Ligue des Champions, qui restera quand même, malgré tout, au-delà du fait qu'ils veulent récupérer le titre de champion, l'objectif principal du Paris Saint-Germain cette saison.
Damien, t'en penses quoi?
Moi, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas oublier que dans tous les grands clubs, il y a cette âme, et cette âme, elle vient pas que des joueurs recrutés, elle vient aussi des joueurs qui sont là depuis longtemps et des joueurs formés au club.
Il n'est pas formé au club, Mathieu, il était là depuis 2011.
Il était là depuis longtemps, mais il avait cet esprit Paris Saint-Germain qui lui caractérisait tant. Par contre, là, je vais parler de joueurs qui sont là. Moi, je tiens à ce que des joueurs comme Areola, Kimpembe et Rabiot fassent leur trou et continuent à jouer dans cette équipe parce qu'on en aura besoin. Ce sont des joueurs qui auront ce supplément d'âme dans les grands matchs, qui sauront se surpasser pour l'amour du maillot. Et ça, si on les a pas, ces joueurs-là, ben moi, je dis que ce sera très compliqué quand on va jouer le Real ou la Juve ou le Bayern, qui ont cette identité de jeu, qui ont ces joueurs formés au club, qui se sont surpassés année après année.
Ça, Lionel, ça doit te parler, hein, toi, ancien de la JOCR.
Ah bah moi, complètement, parce que t'as l'impression qu'on tire un trait sur un passé proche, parce que ça fait pas si longtemps que ça que Blaise quand même est au club. C'est pas un gars, voilà, tu l'as dit, Nico, il est pas issu de la formation, mais il avait l'empreinte, il avait l'identité PSG, et les gens s'étaient identifiés à un joueur comme lui, comme il s'identifie à Rabiot par exemple, et ils vont continuer de s'identifier à Kimpembe, comme le disait Damien, et même à Areola. Ça, c'est hyper important. Tu ne dois pas, les supporters parisiens ne doivent pas perdre leur identité. Parce que en plus, si tu ramènes tout le temps quelque chose de neuf, c'est pas, et peut-être même de mieux, c'est pas pour ça que ça sera mieux sur le terrain. Parce que cette identité, tu l'auras perdue. Et tu l'auras perdue dans le vestiaire. Et si tu la perds dans le vestiaire, tu la perdras inévitablement sur le terrain. Donc attention à pas tout chambouler non plus. C'est pas parce que la mariée, c'est une nouvelle mariée, qu'elle est meilleure que l'ancienne, que celle qu'on avait avant.
Ouais, mais tu te maries souvent, toi, visiblement. Merci
non,
en tout cas, Damien.
J'ai la même femme depuis tout le temps.
Oui, voilà. Oui. Ce qui est vrai d'ailleurs. On l'embrasse d'ailleurs. Merci Damien de nous avoir appelé au 32-16. Bon match à toi.
Merci Damien.
Tiens, juste le temps de vous rappeler également les autres résultats d'aujourd'hui. Lille s'est incliné à domicile face à Caen, 2-0. Match nul pour l'Olympique de Marseille face à Angers. Un but partout. Ndji avait marqué pour les Marseillais. Toko Ekambi a égalisé pour les Angevins. Les Marseillais qui ont terminé le match à 10 après l'exclusion d'Ocampos. Quelques instants, on revient pour la suite de l'Intégral Sport. On est à une demi-heure du coup d'envoi du match entre le Paris Saint-Germain et Toulouse. Neymar est titulaire et dans quelques instants, on va se demander si un plan anti-Neymar est possible.
RMC, Intégral Foot Ligue 1, Nicolas Villas.
C'est l'Intégral Foot, nous sommes à une demi-heure du coup d'envoi du match entre le Paris Saint-Germain et Toulouse. Jeannot Rességué, Morgan Maury sont en place au Parc des Princes. Jeannot, Morgan, ça vous ennuierait de nous donner les compos de l'équipe s'il vous plaît?
Bien sûr que non.
Avec le Paris Saint-Germain, on va commencer avec Morgan Maury.
Avec Areola dans la cage et une défense qui ne voit qu'un seul changement par rapport à la semaine passée à Guingamp. C'est Kimpembe qui arrive en défense centrale aux côtés de Thiago Silva. Sur les côtés de cette défense, Dani Alves et Lévin Kurzawa. Au milieu, Thiago Motta, Adrien Rabiot et Marco Verratti. Et ce triangle d'attaque qui va peut-être s'habituer à voir plus souvent, de plus en plus souvent pour le Paris Saint-Germain, Neymar, Di Maria et Cavani.
Pour ce qui est du Toulouse Football Club, il voulait en faire son deuxième attaquant aux côtés de Delors, mais Sanogo s'est blessé hier à la cuisse. À l'entraînement, il n'est pas du déplacement, mais première pour Gradel, la dernière recrue offensive du TFC. Lafond dans les buts, Amien côté droit, Mbengue côté gauche, le retour de Diop avec Julien en charnière centrale, Somalia et Blin en milieu récupérateur relayeur sur les côtés d'Urmaz et Gradel, Toivonen avec Delors pour les attaquants toulousains. Amaury Delerue sera l'arbitre de cette rencontre.
Merci Jeannot, on vous rappelle que tout à l'heure Lille s'est incliné face à Caen 2-0 et que Marseille a fait match nul face à Angers, un but partout. Il y a également du basket ce soir, match de préparation à l'Euro entre la France et l'Italie. Paul Lafitte est à Toulouse, tiens, justement au Palais des Sports. Salut Paul.
Salut Nico, salut Lionel, bonsoir à toutes et à tous.
Alors ça donne quoi Paul?
Le coup d'envoi a été donné, Nico, il y a un petit peu moins de 15 secondes et la première action en faveur des Italiens avec un shoot à 3 points à la périphérie, le ballon qui roule sur le cercle et finit par ressortir, mais la possession sera toujours pour la Squadra Azzurra. Ce tournoi de Toulouse se passe bien pour l'équipe de France. On
ils
rappelle
sont bien, ils déroulent en ce moment.
Ouais. Avec une victoire vendredi soir face à la Belgique 85-60, une démonstration de force hier face au Monténégro 100-70 dans le sillage d'un extraordinaire, on pèse ses mots, de Nando Docolo, le boss de cette équipe de France. Stephen Brun l'a dit tout à l'heure dans le Total Sport, c'est lui qui est le nouveau chef d'orchestre de cette formation tricolore, MVP de l'Euroleague la saison dernière. Et bien Nando Docolo, en qui hier soir 24 points en l'espace de 25 minutes. Mais les arrières sont de qualité. On pense à Fournier, on pense à Thomas Hurtel, avec bien sûr le rôle de capitaine qui est pour Boris Diaw. Cette équipe peut voyager. Elle voudra voyager, Nico, lors de l'Euro en Finlande. Donc
il reste
dernier
match de prépa, Paul.
Pardon?
Il reste
combien de matchs de préparation là pour les Bleus?
Ce soir face à l'Italie, un dernier match de préparation, ce sera à Berlin face à l'Allemagne. Après cette rencontre de ce soir, les Bleus repartiront dans leur famille pour se reposer 3 ou 4 jours avant de se retrouver à Nanterre en fin de semaine et de rencontrer donc l'Allemagne pour une dernière rencontre de préparation avant le début de l'Euro à la fin du mois d'août. Et il n'y a toujours pas de points marqués sur ce parquet puisque Thomas Hurtel manque son lay-up 0-0. On joue depuis 50 secondes, Nico, dans ce premier quart-temps.
Merci Paul, on reviendra droit bien entendu pour savoir ce qui se passe entre la France et l'Italie dans ce match de préparation de basket pour l'Euro. On va aller retrouver Lucas Vinoy également. Barça-Bétis, affiche de Liga, ça donne quoi?
Toujours 0-0 après 15 minutes de jeu net, nobilisation des Blaugrana, notamment à la deuxième minute, un centre de Roberto à terre pour Deulofeu, l'attaquant barcelonais qui reprend du plat des pieds mais qui manque le cadre. Deuxième occasion à la 13e, un coup franc de Messi légèrement décalé sur la gauche à 20 mètres, frappé juste au-dessus de la barre transversale. Domination des Barcelonais mais domination stérile, toujours 0-0 après 15 minutes de jeu.
Merci Lucas. Tiens, sachez que la Roma s'est imposée tout à l'heure 1-0 à Bergame face à l'Atalanta et que Porto est en train de mener 2-0 face à Morelens avec un doublé de Vincent Aboubakar, un nom qui vous dit quelque chose, vous suiveurs de la Ligue 1. Tout à l'heure, mon cher Lionel Charbonnier, Jeannot Rességuier, Morgan Mori, on avait un débat sur le système adopté par Unai Emery, ce fameux 4-3 qui fait bondir les supporters du Paris Saint-Germain, pas mal du moins. Samir, supporter du PSG, nous a appelé justement au 32-16. Salut Samir.
Comment ça va?
Bah, ça va et toi?
Samir, impeccable.
Alors toi, t'es pas du tout d'accord avec Lionel Charbonnier?
Moi, je suis pas d'accord en fait. Le truc, c'est quoi? C'est que je roulais, je me suis arrêté tout de suite quand on m'a dit que Mota, c'était l'équilibre de l'équipe. Mota, il me rend fou. C'est un joueur, ça fait des années. Il nous a rendu service quand il est arrivé. C'est vrai qu'il a fait des bons trucs. Mais là, le mec, n'importe quel joueur le prend de vitesse. Il sert à faire que des passes à Verratti qui lui remet. Parfois, il
coupe. Ouais, mais alors, attends, je t'arrête tout de suite. Je t'arrête tout de suite parce que.
Il est déjà arrêté, il s'est mis sur le bord de la route.
Mais ouais, non, mais. Quand Mota n'était pas là contre le Barça, on a dit si on avait eu Mota, on n'aurait jamais perdu. Mais tous, vous l'avez dit, arrêtez un peu, les mecs. Maintenant qu'il est là, on dit on le veut plus.
Non. Moi, je l'ai toujours dit. J'ai même déjà débattu sur RMC sur Mota. Et il y avait des consultants qui étaient d'accord avec moi d'ailleurs. Donc moi j'ai toujours dit qu'en sentinelle, il fallait un mec qui ait de l'impact, qui tac, qui va vers de l'avant, qui frappe. C'est Mota, c'est rien. La dernière fois je l'ai vu contre Amiens, il servait à quoi? Il a servi à rien. Et il sert à rien. Ah, le mec,
non, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est quand tu parles d'une sentinelle devant qui doit apporter de l'impact. La sentinelle qui joue devant la défense, elle est là pour apporter un équilibre défensif.
D'accord.
En période défensive. Après, quand tu sais que Kurzawa, Alves, il est plus ailier que latéral. Kurzawa, bon, un petit peu moins quand même. Bon, là où je suis un petit peu moins chaud, c'est vis-à-vis de Kurzawa à gauche, moi, personnellement.
T'es d'accord avec moi? De Mota, tout, mais sauf Mota pour un grand club. Paris veut faire quelque chose en Ligue des Champions.
Je t'entends pas bien.
Je te dis, il faut tout sauf Mota. Mota, il n'y a pas d'impact. Il me fait penser la même vitesse que Sami Traoré, à la limite.
Dans ce cas-là, je suis d'accord avec toi. Alors, on peut faire redescendre Verratti d'un cran et le mettre devant la défense.
Bah, lui, ou je sais pas, moi, prendre un mec comme N'Golan, c'est ça qu'il nous faut. Et un autre truc aussi, moi je trouve que c'est dégueulasse si les rumeurs s'avèrent vraies, c'est le cas Draxler. Parce que Draxler, il est venu en 6 mois, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui se sont imposés comme lui. Premier match, il rentre but. Premier match titulaire contre Rennes, il rentre seule occasion but. En Ligue des Champions contre le Barça, aller comme retour, aller, c'est bon, je dis rien parce que toute l'équipe avait bien joué. Le retour avec Cavani, c'est l'un des seuls qui a réussi à provoquer, qui a réussi à se projeter vers l'avant, qui a fait le pressing, tout ça. Draxler à la rigueur, moi Mbappé j'en veux même pas. Et qu'on mette Draxler à droite ou qu'on mette Draxler en meneur de jeu, moi je le privilège à Pastore, même j'ai envie de te dire, parce que Draxler c'est un bijou. Et quand j'entends que les cadors d'Angleterre avec les prix les fixés à 32-35 millions, j'espère vraiment que c'est des rumeurs et j'espère que le PSG va être redevable à ce qu'il a fait Draxler, parce que déjà il est venu dans un projet où voilà, c'était pas spécialement Paris qui était favori pour l'avoir. Et maintenant, quand j'entends que Draxler veut s'en séparer, j'espère vraiment que c'est des rumeurs et j'espère qu'il aura sa place en tant que titulaire, parce que Draxler c'est un bon joueur, il a 23 ans.
Après Samir, t'as des problèmes de riche aujourd'hui, hein. T'as tous les postes sont doublés, voire même pour certains triplés.
Et Draxler, tu le dégages pas?
Ah, mais personne le dégage. Enfin, toi tu voudrais le voir dans le 11, c'est ça?
Il a raison Samir, on en parle, hein. Moi aussi j'en entends beaucoup parler,
à 100% titulaire Draxler. qu'il a montré en 6 mois, trouve-moi un joueur qui arrive en Ligue 1 qui a fait pareil. Trouve-moi un joueur.
Merci en tout cas Samir, voilà qui a été fait. Merci Samir, merci de nous avoir appelé au 32-16. Bon match à toi aussi Samir. Tiens, on va se poser une autre question, messieurs, à savoir si un plan anti-Neymar est possible. Est-ce que ça existe? Alors, vous avez très certainement lu, vous aussi étudié cette fameuse statistique qu'on lit un petit peu partout. Pascal Duprat est l'entraîneur qui a battu le plus de fois le Paris Saint-Germain depuis qu'il est en version QSI. Alors, il a 3 victoires, mais en 9 matchs. Ça fait 33% de victoires, un tiers en gros. Alors, il y a aussi une autre petite stat également.
Donc, une élimination en coupe.
Exactement. Il y a aussi une petite stat également, alors qui vaut ce qu'elle vaut. Le TFC est l'équipe de Ligue 1 face à laquelle le Paris Saint-Germain est depuis le plus longtemps sans marquer, puisqu'il reste sur un nul 0-0 et qu'avant il y avait une défaite 2-0. Ça fait 198 minutes. C'est un but de Di Maria un 27 janvier 2016. Et bien que le PSG n'a pas marqué face à Toulouse, est-ce qu'un plan anti-Neymar est possible? Je vous pose la question, messieurs.
J'ai du mal à y croire à ça, parce que
si, surtout cas, pas par des individualités.
Non, voilà, c'est ça. C'est à la limite peut-être dans le système de jeu, parce que tu sais qu'il est à gauche au départ et naturellement il va bouger dans l'axe. Et on l'a vu notamment du côté de Guingamp, c'était quand même assez impressionnant. Il a des courses où il vient se positionner entre les lignes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être du côté de Toulouse, c'est peut-être pas deux récupérateurs relayeurs qu'il faut, c'est une vraie sentinelle qui joue beaucoup bien derrière. Celui qui est du côté de Neymar pour bloquer ces espaces-là, mettre quelqu'un en individuel déjà au football, enfin je sais pas, tu vas me le dire Lionel, mais j'ai rarement vu ça marcher.
Peut-être plus. Jeannot, on a fait que ça au CERF.
Non mais attends, une individuelle sur un joueur, pas une individuelle que sur, ouais, sur 4-5 joueurs, donc, parce qu'au CERF Giroud, il vous filait 4 ou 5 plans de jeu, donc c'est pas la même chose. Là je parle d'un seul joueur.
Moi sur une mix, c'est compliqué à gérer.
Ça paraît compliqué quoi quand même, non?
Ouais, c'est compliqué, mais tu sais, moi je suis, c'est là aussi, je disais il y a la semaine dernière où il y a 15 jours, je me souviens plus, l'arrivée de Neymar va chambouler beaucoup de choses dans l'aspect tactique du football français, de la Ligue 1. Je vois Neymar au PSG un petit peu la même chose, alors excusez-moi, je vais peut-être encore faire bondir des personnes, la même chose que lorsque Maradona est arrivé à Naples. Et que Naples survolait le championnat italien et le grand Milan AC de Sacchi a dit, alors tu pourras me contredire peut-être Jeannot, mais c'est à ce moment-là qu'on a arrêté justement l'individuel qui était tout en fait avec ce catenaccio à l'italienne, et que il y a un journaliste qui a posé la question à Sacchi, il lui a dit mais comment vous allez faire demain pour arrêter Neymar,
Maradona,
voilà, tu vois, lapsus, et là-dessus Sacchi a dit mais Maradona, il n'y a personne, il n'y a pas un mec qui pourra l'arrêter, mais tout seul contre une équipe, comment est-ce qu'il va pouvoir faire? Et à partir de là, le grand Milan AC s'est mis à jouer en 4-4-2 avec un marquage de zone quoi, comme on le connaît actuellement, et ça a été le grand début du 4-4-2 comme ça, parce que et sa défense de zone avec tous les gens qui coulissaient, et qui à chaque fois Maradona, excuse-moi Jeannot, s'est retrouvé avec un nouvel adversaire. Il a pu en passer un, il a pu en passer deux peut-être, mais le troisième était toujours là, et là il va y avoir des vrais plans de jeu contre le PSG, parce que admettons, je continue là-dessus sur mon raisonnement,
c'est même contre Neymar si on suit ton raisonnement, plus que contre le PSG, parce qu'il y avait un plan anti-Maradona quasiment qui avait été mis en place
là,
par le grand Milan.
Si tu fais le plan vraiment contre Neymar, si tu veux mettre une individuelle sur Neymar, tu vas te retrouver quelque part aussi avec un autre joueur du PSG qui va être libre. Et ces joueurs-là, c'est là la force, ça va être encore plus la force du PSG par rapport à d'habitude, de par le positionnement de Neymar que disait tout à l'heure Jeannot. C'est-à-dire que lui tout seul va focaliser un ou deux adversaires, pourrait focaliser un ou deux adversaires, ce qui donnerait la porte ouverte à des Di Maria, à des Cavani, à tout ce que tu veux, à des Verratti qui vont s'intégrer, tout ça. Donc ça, c'est vraiment compliqué. Ça donne, le fait que Neymar soit là donne une ampleur dans le jeu, des possibilités de jeu pour ses potes aux alentours qui sont extraordinaires, au-delà de ce que Neymar peut faire.
Voilà, hommage à Blaise Matuidi à l'instant même sur les écrans du Parc des Princes. D'abord un film qui retrace son passage au Paris Saint-Germain, de son arrivée jusqu'au départ, avec notamment quelques buts ô combien importants. Ensuite il y aura le film avec ses partenaires, ses ex-partenaires qui lui adressent quelques messages, et il viendra sur le bord de la pelouse et bien dire quelques mots dans quelques minutes, lui le nouveau joueur de la Juve. Pour revenir sur cet aspect-là, quand tu parlais de l'individu individuels de cette époque-là du Catenac, et que tu parlais de votre individuel à Auxerre, au risque de froisser, c'est l'individuel collectif où il y avait un vrai travail d'individualité des défenseurs sur les attaquants à 4 ou 5 joueurs. Là, c'est plus de la zone, et faire de la zone, ça veut dire que tu peux pas coller un mec sur Neymar. Tu en mets un qui va libérer sa zone et qui va prendre Neymar dès l'instant où l'autre va venir dans sa zone. Mais ça, c'est quasiment impossible à réaliser aujourd'hui, parce que justement avec le talent qu'il y a autour de Neymar au Paris Saint-Germain, c'est s'augmenter des problèmes avec notamment des joueurs par exemple comme Di Maria ou comme Verratti qui aiment bien justement venir prendre les espaces jusqu'à la surface de réparation adverse. C'est là où ça va être très compliqué.
Ouais, c'est ce que je disais,
moi j'y crois pas une seule seconde à un plan individuel anti Neymar. En revanche, un plan collectif sur le côté et vers l'axe, oui, pourquoi pas quoi.
Ouais, mais surtout de toute façon là je pense qu'actuellement la meilleure parade pour le TFC, pour les adversaires du PSG, c'est de jouer avec deux lignes très 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 serrées pour pas que Neymar justement puisse se faire voir entre ces deux lignes, et c'est jouer à 5-6 mètres au plus, pas plus que ça, l'une de l'autre, c'est-à-dire la défense et les milieux de terrain.
Est-ce que Lionel, il n'y a pas aussi un aspect psychologique qui peut être important? Alors certes, le Paris Saint-Germain est aujourd'hui favori, mais alors leur faire peur, par exemple faire peur à un joueur comme Neymar. Je vais donner aussi une autre petite stat. Toulouse était l'équipe la plus indisciplinée après deux journées. C'est une équipe qui fait pas mal de fautes, des fautes donc puisqu'elles ont été sanctionnées, qui sont on va dire rudes, viriles. Est-ce que ça peut jouer ça aussi? Est-ce qu'on peut intimider un joueur comme Neymar en lui mettant la pression d'entrée?
Il y en a qui vont le faire, il y en a même qui pourront être très dangereux, c'est fort possible pour l'intégrité physique, mais j'espère qu'on n'en arrivera pas là, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait carrément, excuse-moi l'expression, lui casser les jambes pour que le PSG n'existe plus, que Neymar n'existe plus. Non, c'est possible, hein, mais non, maintenant avec ça, ça aurait été fait suite à un temps quand il n'y avait pas les images.
Maradona, ça lui arrive,
bien sûr, bien évidemment, mais ça lui arrive aussi à Neymar d'avoir Neymar Messi, je peux te dire. Moi je me rappelle de Zizou. Pourquoi Zizou aussi, il était à un moment donné, il pétait des câbles parce qu'il faut voir ce qu'il prenait comme coup. Alors à un moment donné, il a dit bon, je vais peut-être en prendre, mais je vais aussi en donner. Mais
messieurs,
ça peut faire passer.
Bel hommage pour Blaise Matuidi. Je te coupe Lionel parce qu'il vient d'arriver sur la pelouse avec ses deux gamines. Respect et merci dans la tribune Auteuil. Blaise à jamais parisien. Et ciao Charo. Donc voilà, quelques messages là des coéquipiers pour Blaise Matuidi qui a dit quelques mots accompagné de ses deux filles. Et au passage, ces deux filles, vous l'avez peut-être pas vu, mais si vous voulez aller le voir sur les réseaux sociaux, sur le compte de Blaise Matuidi, avec le maillot de la Juve dans leur voiture qui déjà chantait Forza Juve et Forza Juve, c'était plutôt sympa. Ces deux gamines là sont avec lui sur le bord de la pelouse du Parc des Princes.
Blaise Matuidi, lorsqu'il a pris le micro, a dit: j'avais un rêve quand j'étais gamin, c'était de jouer pour le Paris Saint-Germain. Ce rêve, je l'ai réalisé, je suis très fier de l'avoir réalisé et mon cœur restera à jamais parisien. Et en ce moment, ce sont les coéquipiers de Blaise Matuidi, les anciens coéquipier de Blaise Matuidi, qui s'exprime dans une vidéo.
Ouais, Lionel, t'as vécu toi aussi ce genre de moment? Enfin, t'as peut-être pas eu ce genre d'hommage d'ailleurs, toi, malheureusement, alors que tu l'aurais mérité à Auxerre.
Ah, Auxerre, non, pas du tout. Ils savent même pas que c'est moi qui leur ai donné le plus grand nombre de titres. Donc...
Bah attends, on va les appeler, on va leur dire.
C'est RMC qui m'a récompensé pour ça, tu vois. Donc, non, mais ça, j'attends
c'est
pas
classe,
ça.
C'est classe quand même.
J'ai eu. Ah oui, ça m'a surpris parce que je le savais même pas moi-même.
D'accord.
Pour te dire. Mais d'un autre côté, si, j'ai vécu ça chez les Glasgow Rangers.
Ouais.
J'ai vécu là-bas en 6 mois ce qu'on n'a jamais pu me donner en France. Ce sont des gens extraordinaires. Et lorsque je me suis blessé, je peux te dire, c'était fabuleux. Et je me mets un petit peu à la place de Blaise ce soir. C'est un arrache-cœur. Blaise aurait quelques larmes que ça m'étonnerait pas.
Bah, t'imagines toi en 6 mois, lui en 6 ans, ce qu'il doit ressentir aujourd'hui. Hein.
Ah, c'est un truc de fou. Et il a fait d'autant plus que moi.
Hein. Et une haie d'honneur, messieurs. Une haie d'honneur des joueurs qui viennent à l'instant de terminer leur échauffement sur la pelouse du Parc des Princes de cet avant-match entre le PSG et le TFC. Blaise Matuidi, extrêmement ému, voilà, qui vient de lâcher la main de ses deux filles et qui vient se rapprocher de ses partenaires pour des accolades, des embrassades et quelques mains serrées, voilà, les uns après les autres, et le public du Parc des Princes également qui rend ce bel hommage à Blaise Matuidi. 295 matchs sous les couleurs du Paris Saint-Germain.
Et elle est là, l'alarme à Blaise, l'alarme de Blaise, elle est là, il est en larmes, j'en suis sûr. Il rigole, mais c'est beaucoup, c'est beau. Écoute.
Et le remerciement du Parc des Princes. On se demandait il y a quelques instants si un plan anti-Neymar, parce que c'est ça, le présent et l'avenir du Paris Saint-Germain. Maintenant, Neymar, est-ce qu'un plan anti-Neymar est possible? Ils en pensent quoi, les supporters du TFC? Il y en a qui nous ont appelé au 32-16, comme David. Salut David.
Salut
David.
Alors David, tu le sens comment ce match face au PSG ce soir?
Je sais pas comment je le sens. Après, on va voir. L'année dernière, les matchs contre le PSG, ça nous avait souri. Mais entre-temps, le PSG s'est renforcé. Nous, on peut pas dire qu'on se sera beaucoup renforcé non plus. Donc on verra bien, mais ça appartiendra à l'histoire du match. Ça.
Et t'imagines ce que tu dis, David, et c'est fort, c'est beau. Il faut que le PSG se renforce pour pouvoir battre Toulouse.
c'est contextuel. Ça peut chambrer un peu, mais après c'est contextuel.
Bon, et si t'avais un conseil à donner à Pascal Duprat là pour arrêter Neymar, ce serait quoi?
Non, après arrêter des conseils à donner à des tacticiens, des techniciens, j'en ai pas vraiment. Après, dans l'histoire du foot. Il y a eu les deux trucs, il y a eu les individuels et après compenser tactiquement, gérer tactiquement, comme a expliqué, je crois que c'était Lionel, qui expliquait, oui. Il y avait les deux lignes resserrées, milieu défense. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup, donc, par le déplacement de, par d'autres équipes, etc., pour essayer de gêner les transmissions. Il n'y a plus beaucoup d'individuels, pratiquement plus. Après, c'est souvent un truc de dire que c'est dépassé, mais dans l'histoire du foot, si vous regardez des matchs, beaucoup de grands joueurs, on leur a mis une individuelle dans des gros matchs et ça les a beaucoup gênés. Je pense à Berthizot qui a gêné Cruyff en 74.
Mourinho l'avait fait avec Messi aussi, hein, souvenez-vous.
Ouais, après, voilà, ça marche pas. Il faut pas croire que, voilà, se coltiner quelqu'un tout un match, ça soit si simple que ça. Hein. Et après, je pense que dans le cas d'une individuelle, il faut pas non plus un mec que ce soit trop bourrin. Au contraire, il faut que ce soit quelqu'un de plutôt intelligent, qui joue dans l'anticipation, toujours à distance d'intervention, de pas se jeter et d'anticiper, d'essayer de le gêner, de lui dire quoi le message, à chaque fois que tu vas avoir le ballon, je vais être là. C'est pas si évident que ça de croire que l'individuel est dépassé, je pense.
Et dis-moi, toi t'es entraîneur, c'est pas possible.
Non, pas du tout. Après, je suis passionné par le jeu et par l'histoire du jeu, donc
tu parles comme
voilà, comme beaucoup d'auditeurs.
T'as bien parlé.
Je sais pas si c'est bon signe, David, méfie-toi.
Après, si, il a bien parlé.
Je demande à Nico et à toi, Lionel, peut-être qu'il faut les deux. À la fois peut-être quelqu'un qui est là pour gêner le joueur et éventuellement si jamais il est pris, parce que l'individuel forcément ça ouvre le cas une fois dans le match, ben peut-être le mec est pris sur un contrôle orienté, quelque chose à ce moment-là, peut-être d'avoir aussi des joueurs intelligents autour, d'avoir pu compenser, jouer près de lui au niveau des lignes, de façon à ce que si jamais ça passe, eh ben, la double lame, voilà.
Ouais, moi je pense que Jeannot a répondu un petit peu tout à l'heure. Il va falloir jouer très serré, il va falloir des compensations, et là où va se trouver Neymar, il faut tout de suite, avant qu'il puisse, au contrôle, que quelqu'un, par rapport à ce que tu viens de dire, que quelqu'un soit là au moment où il va contrôler. Donc, pour être là, au moment où il va contrôler, il faut que les deux lignes soient très proches, parce qu'ils vont le trouver derrière, à la limite, ils vont le trouver derrière la ligne de milieu défensif, du TFC, mais il faut tout de suite, donc le but c'est de défendre en avançant, il faut tout de suite qu'il y ait quelqu'un qui soit là, qui défendent en avançant pour l'empêcher de bien contrôler. Ça reste Neymar, hein, empêché de bien contrôler. Donc faut pas lui laisser de temps. Si t'es à plus de 7-8 mètres, ça va être compliqué. Donc resserrer les lignes pour une intervention là où se trouvera, et pratiquement ce que disait Jeannot, une individuelle dans la zone.
Et Libron Steak, lui, sur l'hashtag RMC Live, il a peut-être trouvé le plan, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Bon bah le plan anti-Neymar made in Ligue 1, c'est de lui casser une patte. Hein.
J'imagine qu'il y en a qui vont penser ça. Ouais, c'est pour la dérision, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il y en a qui vont le faire sans le faire exprès, hein, tu vas te dire, parce que le problème avec Neymar, c'est que si t'as des lignes, si des joueurs se trouvent un peu loin, inévitablement ils vont arriver après la messe et là ils vont faire des fautes.
Merci à David de nous avoir appelé au 32-16. On va aller faire
David.
Un petit point en Liga Espagnole. Barça-Bétis avec Lucas Vinoy. On en est où?
Toujours 0-0 après 33 minutes de jeu. Le Barça qui pousse, le Bétis qui plie mais ne rompt pas. Toujours donc 0-0 après 34 minutes.
Et au basket, Paul Lafitte à Toulouse. France-Italie, match de préparation à l'Euro.
Ouais, Nico, les 36 dernières secondes de ce premier quart-temps. Match très serré, très engagé entre les tricolores et la squadra azzurra. 24 partout et c'est Nando Docolo qui est au lancer franc. À noter la grosse perte durant ces 10 premières minutes de Geoffrey Lauvergne, l'intérieur de l'équipe de France, auteur de 10 points, de 2 passes décisives et de 2 rebonds. Il est au four au moulin, Geoffrey Lauvergne, et il permet notamment dans le secteur intérieur à cette équipe de France, eh bien, de tenir la baraque face aux Italiens. Et les Bleus qui passent de devant 25-24 grâce au lancer franc de Nando Docolo. La fin de ce premier quart-temps dans moins de 25 secondes.
Merci
c'est
Paul.
C'est toujours dur contre l'Italie.
Ouais, c'est même en basket, hein, t'as vu. Même avec, même pas tomber les mains et que ça compte. Hein.
Partout.
On est à moins de 10 minutes du coup d'envoi du match entre le Paris Saint-Germain et Toulouse. L'intégral foot revient juste après ça.
RMC, Intégral Foot Liga.
Je ne me souviens pas de l'accident. Juste d'avoir dit que c'était une mauvaise idée de prendre la voiture après tout ce qu'on avait bu. Je me souviens des minutes interminables à attendre coincé dedans. Des gyrophares, du bruit des sirènes, de Julien, la tête sur le volant, de l'odeur de son sang et du visage de ses parents à l'enterrement. Aujourd'hui, ça fait 7 mois que je suis en rééducation, à me battre pour remarcher.
Quand on tient à quelqu'un, on le retient. Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables. Même le plus dangereux des tueurs à gages peut avoir besoin d'un garde du corps.
Tu ne survivras pas une heure sans moi.
Hitman and Bodyguard. À part le maniement des flingues, ils n'ont rien en commun.
T'es aussi utile qu'une capote dans un couvent.
Ryan Reynolds, Samuel Jackson, tandem explosif pour la comédie d'action de l'été. Hitman and Bodyguard, le 23 août au cinéma.
Avec RMC.
Aussi spectaculaire que les falaises de la côte normande, les 18 jours de sport intense du meeting de Deauville. Profitez de vos vacances d'été pour venir admirer les meilleurs chevaux et Jockey d'Europe avec 150 courses prestigieuses. Rendez-vous du 29 juillet au 30 août à l'hippodrome de Deauville-Latouque. Prenez vite vos places sur meetingdedeauville.com avec RMC.
RMC, c'est au 32-16.
45 centimes la minute.
Et au 7-32-16.
65 centimes par envoi plus prix du SMS.
RMC, Intégral Foot Ligue 1, Nicolas Villas.
On est à 5 minutes du coup d'envoi entre le Paris Saint-Germain et Toulouse. Affiche de la troisième journée de Ligue 1 tout à l'heure. Marseille a fait match nul, un but partout face à Angers. Lille s'est incliné à domicile face à Caen. 2-0. On va parier, tiens, sur ce PSG Toulouse.
PMU.fr, Paris Sportif, Paris Flic, Poker.
Charles Ferrand est avec nous. Salut Charles.
Salut messieurs.
Alors juste avant que tu nous donnes tes codes, Charles, ça bouge en Espagne. Ça vient de se produire un but pour le Barça face à Betis, Lucas.
Exactement, but. Alors on ne sait pas encore si c'est Messi ou si c'est Deulofeu qui le met, puisque c'est un centre de Deulofeu et Messi qui passe juste devant le ballon. Alors je pense que c'est Deulofeu qui le met directement. Mais en tout cas, ça fait 1-0 pour le Barça contre le Betis après 36 minutes de jeu. Un Barça qui poussait et Messi qui avait trouvé le poteau quelques minutes auparavant sur coup franc.
En tout cas, on est sûr que c'est pas Neymar. Hein. Ça c'est sûr. Charles, quels sont les codes pour ce match, pour ce PSG Toulouse?
Alors, c'est 1-0-6 seulement pour le PSG, 17 nuls, 28 pour Toulouse. Alors, Paris n'a perdu que 2 de ses 21 dernières confrontations face à Toulouse en Ligue 1. La dernière remonte au 29 octobre 2008, ça commence à dater. Le PSG est également invaincu lors de ses 24 derniers matchs à la maison en championnat. Et enfin, Toulouse se déplace très mal puisque leur dernier succès en dehors de leur terre remonte au 2 avril dernier. Je vois logiquement Paris gagner, mais c'est clairement pas intéressant, 1-0-6, donc je vais dire que Toulouse peut marquer comme ils l'ont fait contre Monaco. Paris qui gagne, Toulouse qui marque, c'est coté à 2-10. Et puis si on veut jouer un buteur, on peut très bien tenter Paris plus Di Maria, c'est 1,85 puisque Cavani et Neymar c'est trop peu, c'est 1,20 et 1,30.
C'est dingue, c'est des stats de Coupe de France, hein, Lionel.
Bah écoute, et Charles, t'imagines que si Toulouse marque avec en plus le milieu défensif qu'ils ont mis en place, en plus de la défense avec 7 joueurs défensifs, je comprends les Parisiens qui vont en avoir marre. Non, moi je vais pas te suivre là-dessus. Par contre, avec un but Neymar Cavani,
alors on peut pas jouer marques. On peut pas jouer les doublés, on peut jouer les triplés sur ce match, non, Lionel.
Ouais. Ah ouais.
Les mecs ils sont vraiment confiants, les croyants.
Les triplés.
Ah ouais, on peut jouer avec les triplés, c'est côté à 4 pour Cavani et à 4,40 pour Neymar.
D'accord. Ah non, mais moi ce que je voulais dire c'est un but chacun. Un but de Neymar, un but de Cavani.
Bah, c'est quoi, c'est 1-20 et quelques?
Ouais, c'est 1-20-30, c'est pas
ça. Ouais, c'est que dalle. Bon.
Bon bah tu paries pas ce soir, c'est ça.
Bah, non, je suis là, je suis une truffe, hein. Franchement les stats là.
Bah Lionel, sinon on a
allez,
le.
Allez, un coup franc de Di Maria.
Un coup franc de Di Maria. Tiens, Paris plus Di Maria, c'est 1,85.
Jeannot, tu paries sur Toulouse
c'est
ou pas?
Pas beaucoup mieux.
Je ne parie jamais parce que je suis une buse.
Mais on est deux. Puis l'argent est tellement difficile à gagner que le perdre comme ça.
En plus.
Est-ce qu'il y en a un qui parie Toulouse, il y en a un qui parie Paris, il y en a un qui sera peut-être plus une buse.
Non, mais moi j'ai dit ce matin qu'éventuellement pour m'amuser, j'aurais parié un match nul. Mais bon, voilà. Histoire d'être ridicule jusqu'au bout. Mais je vais pas lâcher les Toulousains ce soir quand même.
Tiens, et puis Lionel, j'ai peut-être une cote pour toi. C'est Paris qui gagne 1-0, 2-0, 3-0. C'est 2,65.
C'est bien ça, ouais.
Allez, on va prendre ça. Côté 2,65.
Bah, c'est mieux qu'il y a 1,80 quoi.
Ouais.
Merci Charles, sachez que les paris sont à retrouver sur rmcsport.fr.
Paris sportif, Paris hippique, Poker.
Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Et le coup d'envoi du match entre le Paris Saint-Germain et Toulouse est imminent.
Parce que pour donner le coup d'envoi, il faut que les joueurs soient sur la pelouse. Et là, pour l'instant, ils sont toujours pas sur la pelouse.
Ils sont encore à la buvette.
Attends, on a 3 minutes du coup d'envoi normalement.
Ils sont dans les vestiaires. Ils sont dans
la minute de silence.
Ils sont dans le couloir. Ils sont dans le couloir.
Non, dans le protocole, tu vois, ils devraient normalement sortir maintenant. Parce qu'il y a la minute de silence ou d'applaudissement à la mémoire des victimes de Barcelone et Cambrils. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un petit peu de retard.
Alors ça bouge, tiens, à Barcelone, entre le Barça et le Betis, ça y déroule hein, les Barcelonais, Lucas.
Et oui, le Barça qui double la mise par l'intermédiaire de Sergio Roberto à la 38e minute de jeu. Deleu, très remuant depuis le début du match sur son côté droit, qui adresse un centre au point de pénalty. Sergio Roberto qui reprend du plat du pied au point de pénalty et qui trompe le gardien à contre-pied. Ça fait 2-0 après 40 minutes de jeu au Camp Nou.
Merci Lucas. Tiens, Jeannot, un petit mot également sur Gradel, tu l'évoquais, premier match avec Toulouse. Il est titulaire pour son grand retour en Ligue 1. Alors ça s'était pas très bien passé pour lui, hein, Bournemouth en Angleterre.
Non, c'est vrai qu'il a pas eu de très bonnes stats. Il avait réalisé notamment une bonne partie de saison avec Saint-Etienne, justement, qui avait amené le fait qu'il retourne à Bournemouth, puisqu'il avait déjà joué à l'époque en l'équivalent de la 3e division. Là il revient avec un gros pari de se relancer avec le Toulouse Football Club en prêt. La volonté en tout cas de la part de Pascal Duprat, alors que les joueurs entrent sur la pelouse à l'instant même, de se servir de son expérience de la Ligue 1 et puis surtout le besoin d'avoir un joueur assez vif, rapide sur les côtés. C'est ce que voulait Pascal Duprat. C'est donc pas vraiment une surprise qu'il le fasse débuter ce soir ici au Parc des Princes.
Ouais, Lionel, il y a eu le coup dur avec l'absence de Yaya Sanogo. Alors ça a été l'une des surprises du dernier moment, on va dire mauvaise surprise pour Pascal Duprat. Gradel de retour en Ligue 1, ça te fait quoi, plaisir?
Oui, ça fait toujours plaisir de retrouver un mec comme Gradel. Je pense que tout ça va ravir aussi tous les Toulousains. Ouais, petit coup dur, mais bon, Pascal Duprat n'a pas forgé son groupe sur des individualités. Il a un groupe qui tient la route et je pense qu'ils ont une force mentale. C'est un petit coup dur, mais bon, c'est pas non plus un coup d'assommoir pour les Toulousains.
Il n'a jamais marqué contre le Paris Saint-Germain avec Saint-Etienne. Voilà, pour ceux qui aiment les statistiques.